pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ce sont des petites ou des grandes histoires qui commencent par des crispations, enflent avec des divisions et construisent peu à peu des clans qui se radicalisent. On est sommé de prendre parti, on doit choisir son camp. Les Capulettes et les Montaigu, les Horaces et les Curias, eux n'ont pas le choix. La famille impose son camp, les traîtres seront condamnés. Mais dans les villages de France, dans les écoles ou dans les bureaux, dans les hameaux et dans les préaux, des querelles qu'on appelle de clochers, des rivalités, des jalousies, des clivages profonds, des divisions existentielles pourrissent la vie des gens. À La Salvetat, dans l'Hérault, la commune est déchirée depuis qu'une inquiétante communauté s'est installée, une sorte de secte néo-fasciste et entièrement féminine baptisée les Brigandes. Les pros et les anti en sont arrivés aux mains, des plaintes ont été déposées, les enfants en parlent dans les écoles. On ne sait plus, écrit étonnamment Le Parisien, qui est pro ou anti-brigande. Plus au nord, à Charroux dans la Vienne, la création annoncée depuis 3 mois d'une porcherie bio a scindé les habitants en 2 clans remontés. Certains riverains, regroupés en collectif, dénoncent un projet industriel, enfin disons une industrialisation du bio. Lettres anonymes, menaces, consultations publiques fusent dans tous les sens. À Frégnier, enfin, plus à l'ouest, dans ce village de 1000 habitants environ, le maire s'est mis en tête de ne plus être rattaché au Maine-et-Loire et de créer une commune nouvelle avec 5 autres localités situées en Loire-Atlantique. Une nouvelle entité baptisée les Vallons de l'Erdre qui ferait changer Frégnier de département. Les opposants, vent debout, ont exigé un référendum. Il fut même un temps, figurez-vous, où les familles françaises, les villages, les bureaux, etc. étaient divisés en 2 familles politiques. Certains étaient de droite et d'autres de gauche. Et ils se disputaient âprement. Vous vous souvenez ? Heureusement, La République En Marche a réduit ce clivage politique ringard. On n'est désormais ni de droite ni de gauche, ou les deux à la fois. Mais qui y croit et pour combien de temps ? Aujourd'hui, dans les pieds sur terre, 2 querelles de clochers ou guerres de clans qui en disent long sur les préoccupations de nos concitoyens. Et c'est Valérie Borst, tout de suite, qui les raconte sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je cherche le McDonald's.
Je ne suis pas d'ici, mais je crois savoir qu'il n'y en a pas. Le maire a refusé à plusieurs reprises le permis de construire et je crois que ça en est là.
J'habite donc à Doulouse-Doléron, je suis gérante de gîtes et de chambres d'hôtes. Ce que je ne comprends pas en fait dans l'histoire, c'est que on interdise une enseigne à ce moment-là, on interdit tout ou on interdit rien. Il y a Delbar, il y a les Briconautes, il y a Royan Mousse, il y a Intermarché, il y a Totem, il y a Jiffy, donc bon, je vois pas en quoi à cet endroit-là ça va ternir l'image de l'île. Pendant qu'on y est, allez, on y faisons sauter le pont et retournons à l'âge de pierre, voilà, c'est on va vivre de la pêche. Des carottes qu'on va faire pousser dans le jardin et puis on boira de l'eau du puits et puis voilà.
C'est un peu radical ça.
Bah c'est un peu radical, c'est comme interdire l'implantation du McDo, c'est pareil, c'est très radical aussi. Donc tant qu'à être radical, autant y être à fond. C'est vrai que s'il a mis un petit peu le feu aux poudres, bon c'est lorsque monsieur le maire a décidé de faire appel à la décision du tribunal administratif, décision donc qui était exécutoire, et donc que la commune soit condamnée à verser 300 euros par jour pour les astreintes. Donc sur le budget de la commune, il y a 21 600 euros qui ont été provisionnés pour 2017. Bon, c'est vrai que tout le monde se plaint des trottoirs qui sont un petit peu défoncés. Il manque pas mal de pistes cyclables aussi pour que le réseau des pistes se rejoigne. C'est sûr que cet argent-là aurait pu être employé autrement. Quand les astreintes donc ont démarré et que donc monsieur le maire a fait appel du jugement, on en a parlé avec des amis, puis bon, on a créé un groupe sur Facebook pour justement pouvoir parler de tout ça, puis voir si les gens étaient plus ou moins d'accord avec cette condamnation. Bon, après c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même réuni pas mal de monde et que voilà, qu'il y a plein de gens qui suivent notre idée quoi. On sent quand même une certaine tension au sein de l'île d'Oléron, surtout à Doulouse par rapport à ça quoi. C'est vrai que moi, sur le groupe, il y a plein de gens que j'ai freinés parce que bon, ils voulaient qu'on commence à hurler dans les rues avec des banderoles et des pancartes en disant on veut un McDo. Moi, je suis pas du tout d'accord pour ça, quoi. Donc voilà. Après, bah, c'est clair qu'on peut pas non plus tout maîtriser. Il y a peut-être des individus qu'on pourra pas maîtriser non plus éternellement, quoi. Mais je sais que bon, les sites Facebook donc sont très surveillés par la gendarmerie parce que bon, des propos sur par rapport à des actes violents, rien n'est pris à la légère. Surtout avec ce qui s'était passé chez Monsieur Villa la semaine dernière. D'après l'article qui est dans le Littoral, il y a un impact de balle de 9 mm dans une fenêtre chez lui à l'étage. Moi, je veux pas que soit liée l'histoire de la balle de 9 mm dans sa fenêtre et des anti-McDo. Je n'ai absolument pas dit ça et je le dirai pas. Bon, par contre, ouais, c'est grave. Effectivement, c'est très grave. Là, on parle quand même d'armes à feu, quoi. Bon, c'est quelque chose, ça peut tuer, quoi. Bon, en être arrivé là pour deux tranches de pain et un steak, bon, une feuille de salade, bon, c'est vrai. C'est hallucinant. Ouais.
Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller voir Monsieur Villa ?
Oui, bah après je peux vous donner son téléphone et puis je pense qu'il pourra vous recevoir. Oui.
Il n'y a pas de McDonald's sur Oléron. Il y a vraiment une polémique impossible. Donc non, pour l'instant, il n'existe pas.
Et vous, personnellement, vous en pensez quoi ?
Ben, je rejoins Monsieur Gendre, qui
le maire de Dolus,
qui lui préférerait faire quelque chose d'associatif ou de
un restaurant qui s'appellerait le McDoll. L'auréole qu'on voit, c'est la poudre. Le service balistique, en fait, si on passait la journée là-dedans, ils ont repéré que ça a été tiré. Les gens se sont mis dans l'arbre là-bas, à 2 mètres à peu près, 2 mètres 50 de haut, pour aligner ici. Mes fenêtres, c'est des vitres blindées. Donc du coup, ça a traversé la première vitre, ça rebondit sur la deuxième. Voilà. Deux jours après, il y avait un sac McDonald's qui était rempli de déchets, qui a été posé au pied d'un arbre dans la propriété. Pour moi, c'est pour signer un peu l'acte, quoi. Je suis le seul à qui ça arrive dans l'île, donc c'est pour ça que ça doit être en lien direct avec les anti-McDo. Si vous allez sur les sites, vous allez voir, ils disent qu'ils vont mettre des bombes aussi. C'est un terrain familial, il appartient à ma famille, on est quatre, ma mère, ma sœur, mon frère et moi. Dès le début, c'était voilà, un terrain où on vendait des bateaux, on était concessionnaires, il y avait une activité de chantier naval, et puis qui a périclité, enfin qui s'est déplacé, et aujourd'hui c'est devenu une zone commerciale. C'est le seul terrain à Oléron où il est possible d'installer ce projet d'implantation commerciale, tout simplement parce que c'est les derniers 1000 mètres carrés qui restent sur l'île d'Oléron en zone commerciale. Il n'y en a pas sur les autres communes. Et voilà, ce terrain, on a un projet de le louer à McDonald's, qui construira un restaurant, un petit restaurant. Ça fait 18 ans que je suis élu à la mairie. Et aujourd'hui, je suis dans l'opposition, puisqu'en fait, je suis le leader de l'opposition face au maire. Je suis son ennemi. Enfin, c'est plutôt lui qui est mon ennemi. Ça fait 4 ans et demi qu'il paralyse le projet. Comment il compense les 30 emplois qu'on a perdus ? Parce que là, il y a des jeunes qui sont sur la béquille, qui n'ont pas de boulot sur cette commune. Ils auraient bien été contents de travailler là. Ils sont obligés de s'exiler, de partir à l'extérieur, en ville, se rapprocher de Rochefort, La Rochelle, Sainte, parce qu'il n'y a pas de boulot dans l'île. On a un taux de chômage énorme. On est entre 25-28% l'hiver. On le résorbe en saison avec l'activité touristique, mais on ne descend jamais en dessous de 8%.
Mais dans le projet alternatif que M. Gendre propose, ça crée des emplois aussi.
Moi, je vous dis son truc. Ça ne tiendra pas. Installer un restaurant là où ils veulent faire, c'est un dépôt de bilan assuré dans les 18 mois. Ça va au tas, parce que c'est évident, parce que je connais le territoire. Je vends des commerces et des entreprises tous les jours, c'est mon job, c'est mon boulot. Je suis agent immobilier, dans le commerce et dans l'entreprise, c'est mon travail quotidien. Je connais le territoire, je connais le marché. Jamais ce type de restauration avec du bénévolat, les mecs, ils ne se lèveront pas, et le réveil n'aura pas sonné. Ici, vous savez comment on commence à les appeler, le projet de la caillitière. Les gens parlent des crasseux de la caillitière. Donc voilà, c'est l'image qu'on a.
Ça veut dire quoi ?
Ben, ça veut dire que c'est le genre de personnes qui vont s'intéresser à ce projet parce que ça sort du commun, ça plaît beaucoup. Mais c'est des gens qui n'aiment pas travailler, ils ne vont pas le matin. Ils auront fait la fête la veille, ils auront peut-être fumé trop de pétards, enfin ils auront la tête dans le seau, et ils ne viendront pas bosser. Je sais comment ça finira, ça ne tiendra pas. Puis on verra, je dirais que le meilleur l'emporte. Mais je sais qui c'est qui l'emportera.
C'est vrai que de partout, tout le monde nous dit, dans la France entière, mais même à l'étranger, on a entendu parler de Dolus. Et de son McDo, qu'on ne veut pas. Mais j'admire le combat, là.
Bien au contraire, c'est un vrai débat politique. Dolus pose sur la place publique, effectivement, un enjeu politique majeur. Qu'est-ce qu'on veut comme type de nourriture ? Qu'est-ce qu'on veut comme type de développement économique ? Qu'est-ce qu'on veut proposer à nos jeunes ? Et moi, je trouve que c'est un vrai sujet d'actualité et à dimension nationale ou internationale. Donc, Dolus, bravo.
Vas-y, c'est toi qui ouvre.
Oui, bienvenue.
Donc ici, tout était en friche avant.
Oui.
Alors, je m'appelle Grégory Jean, j'ai 40 ans. Et voilà, je suis maire de Doluce depuis 2014. On a reçu en décembre 2014 le directeur des relations institutionnelles de McDonald's France et le directeur commercial de la zone Grand Ouest. Ça a été courtois, hein. On s'est discuté pendant 2 heures. La question que je leur ai posée, je dis bon, alors écoutez, donc vous faites vos aliments, etc. Bon, vous avez besoin de tomates. Bon, dans votre modèle, ce qui serait hyper intéressant si vous voulez venir ici, c'est prenez des tomates d'Oléron. Réponse, ah mais monsieur le maire, ça c'est pas possible, nous les tomates on les prend calibrées. Boum, donc là j'ai dit, ah bon, très bien. Alors ensuite on va dire, on est territoire zéro déchet, contrat qui est signé avec l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie, pour justement imiter tout ça. 42 000 tonnes de déchets par an, c'est ce que représente McDo aujourd'hui. Donc on leur dit, alors ça concrètement, est-ce qu'on pourrait pas, sur un modèle oléronais atypique, est-ce qu'on pourrait pas utiliser de la vaisselle, plutôt que de prendre du jetable et tout le truc. Et donc là, la réponse du directeur commercial, c'est, non, attendez, monsieur le maire, c'est pas compris. Nous, on a des franchises, un modèle qui fonctionne, notre métier, c'est d'avoir une boîte, un peu comme une box internet, si vous voulez, qu'on la plug sur un territoire. D'un côté, on branche les clients, de l'autre, on branche le chiffre d'affaires et les bénéfices, ça repart via les contrats de marque à McDo France, et faut pas oublier que l'actionnaire principal de McDo sont des fonds d'investissement. Donc, en fait, on en arrivait à cette conclusion. Moi, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, bah, écoutez, juste, on fait un constat qu'on n'est pas d'accord sur l'analyse du modèle de développement. McDo, ça veut dire mouvement pour une alimentation citoyenne sur Doluce de Léon. Alors là, pour l'instant, c'est vraiment les premières ébauches, mais il y a bibliothèque, jeux, donc bien sûr à boire et à manger via les fameux food trucks, donc produits locaux, circuits courts, etc., alternatives, sur des fourchettes de prix comparables à ce qu'on peut trouver sur les enseignes de restauration rapide qu'on connaît. Toutes les productions qui vont sortir du jardin alimentent, pour le coup, les food trucks qui vont pouvoir bosser ici, et demain, quand elle sera installée, la cuisine, McDo pour faire l'ensemble.
Ah, le jardin, la aubergine, la courgette, oignons, concombre. Tomates.
C'est vous qui avez planté tout ça?
Oui.
C'est votre fils?
Oui.
Bonjour.
Oui.
Bonjour. Vous êtes arrivé quand ici?
L'année dernière, au 14 février.
14 février, la semaine dernière.
Ah non, on est là. Mon père et maman, et mon frère et soeur. Si on reste en Syrie, il y a beaucoup de gens morts, et on ne peut pas le rester. Pas pour ça, on est parti au Liban. Et au Liban, il n'y a pas trop de choses pour travailler.
Comment vous allez le rémunérer, Mohamed?
Alors ça, c'est la question qu'on est en train de voir avec le collectif pour les réfugiés. C'est savoir si c'est une prestation ou si du coup, c'est une forme de subvention. Ouais, donc là, c'est ce qu'on est en train de voir avec la compta publique. Mais de toute manière, à terme, et c'est tout l'enjeu de ces activités, c'est de développer un modèle économique suffisamment intelligent et pérenne pour que ça puisse salarier des gens. Ça, c'est le but du jeu. De toute façon, c'est la condition sine qua non pour que ça perdure dans le temps.
Ça dénature l'esprit d'une île.
Que McDo a sur l'île de Ré. Et on verra. On n'a pas besoin de McDo, des Américains.
On est dans un coin où, en termes d'électorat, il n'y a pas la majorité des gens qui rejoignent les idées au Front National, mais il y a quand même un terreau important. Il fait 44% au deuxième tour, au présidentiel. Donc, du coup, quand ce type de sujet est arrivé sur la place publique, on a eu certains qui étaient... C'était compliqué. Quand on a décidé de ne pas signer le permis et d'aller en appel, quand on a pris cette décision-là, qu'on l'a rendue dans l'espace public, donc là, il y a eu un premier... pouf, on va dire, médiatique, mais qui était, mais c'est quoi Astérix contre Big Mac, machin, qu'est-ce qui se passe? On avait très peur de tomber dans l'espèce de caricature du tout petit contre le Goliath. Et là, en fait, ça a été un carton. On a eu plus de 4 500 € de dons, la buvette a cartonné, plus de 200 adresses mail, plus de 70 contributions aux ateliers avec des trucs hyper intelligents, hyper pertinents, des personnes mobilisées pour le projet alternatif. Et là, ensuite, on a fait une seconde phase, donc qui s'appelle « Soyons les 900 ». Et l'idée, c'est de trouver 900 personnes qui s'engagent chacune à donner 10 euros, parce qu'on a besoin de 9 000 € par mois. Alors pourquoi 10 euros? Parce que grosso modo, c'est le prix d'un Big Mac avec une frite, etc. Ça correspond au montant des astreintes financières, parce que l'idée, c'est pas qu'on les paye, bien sûr, avec l'argent public, mais qu'on arrive à mobiliser la société civile autour de ce sujet. Parce que, in fine, moi, je suis intimement persuadé que la Cour d'appel va nous donner raison. Et donc, tout cet argent qu'on aura levé, donc qu'on a mis sur un compte en banque au nom de McDonald's, etc., l'idée, c'est pour que cet argent-là, il soit investi directement dans la création du lieu alternatif, parce que du coup, c'est autant d'argent frais qui va nous servir pour les travaux, l'installation, la peinture, etc.
En tant qu'Oléronaise, je pense que ouais, ça serait mieux d'avoir un truc sur Oléron, parce que faire de la route pourrait prendre 10-15 minutes à le bouffer le truc, à repartir en une demi-heure, c'est... Bah, ça coûte plus d'essence que de bouffe, quoi. C'est inutile dans un sens. Et moi, j'ai pas le permis. J'y vais avec ma mère ou des potes, ou voilà. Soit je prends un nuggets avec frites, sinon je prends un wrap poulet bacon avec frites, sinon je prends les deux à la fois.
On est aujourd'hui, nous, notre génération et moi le premier, nés avec des habitudes de faire entrepreneuriales, associatives, etc., qui sont pas communes à tout le monde. Le principe qu'une mairie refuse de signer un permis, que vis-à-vis des astreintes, on fasse appel à du financement participatif, qu'on crée des événements, que des gens s'y perdent là-dedans, mais c'est compréhensible, parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. C'est normal. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on est à mi-chemin entre les choix politiques, les choix de société et l'engagement sur le long terme.
France Culture, les pieds sur terre.
J'ai aujourd'hui 48 ans bientôt. Je suis un heureux papa de deux jumelles, Neige et Camille, avec le soutien de Cathy. Au départ, on voulait les mettre dans une structure où on pouvait apprendre l'occitan, une structure plus familiale, plus intime. Et puis, bon, ils sont rentrés à Camus, parce que c'était en fait, je n'avais pas trop le choix, là, c'était le rectorat qui nous a dit, voilà. Donc voilà, tout est organisé, les bus, tout ça, machin. Bon. Elles sont donc rentrées en sixième et je me suis de suite proposé comme délégué des parents d'élèves pour m'imprégner, voir comment ça se passe et être plus actif dans le déroulé de leur scolarité et des autres aussi, évidemment. Et là, je me suis aperçu que quand j'ai commencé à leur parler des repas en agriculture biologique, de la Wi-Fi qui envoie des ondes de champs électromagnétiques. Oula, lui, oula, oula, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes en filaire, non? L'année suivante, j'ai pas été réélu, quoi. Ils ont pas voulu de moi. Un soir, j'étais ici, justement, et Neige et Camille, nos enfants chéris d'amour, elles sont rentrées, et puis ni ah, papa, il y a des... On a des professeurs qui cherchent des parents... qui serait prêt à s'engager dans la vie de l'école. Ah ben je dis, bah oui, sûr que oui, tu peux donner moi. Je dis, réponds présent à l'équipe de professeurs, et puis deux ou trois mois plus tard, j'ai été invité à aller avec une équipe, une partie de l'équipe pédagogique, ainsi que d'autres parents d'élèves, à mettre à l'abri des outils pédagogiques. Il y avait principalement des tableaux noirs à la craie, il y avait des chaises, qui pouvait encore servir, mais qui était absolument voué à la destruction. Et nous, on a dit non. Donc, moi, ça m'a conforté. J'ai dit, on démonte proprement, on garde les vis, on regarde comment c'est fait, on les met à l'abri pour le remonter en septembre. On le voyait, il y avait la benne de la déchetterie juste en bas, ça passait par les fenêtres. Tout ça passait par les fenêtres. Et stop. Stop. Les profs avaient amené des tournevis, des clés, tout ça. Il y avait quelqu'un qui avait loué un fourgon, un grand volume, pour pouvoir déplacer tous ces grands volumes. Et c'est là où, quand je rentre dans le collège, je vois arriver deux voitures de gendarmes, un peu comme dans les films américains, avec frein à main. Ils avaient été alertés d'un cambriolage au collège. Donc, ils arrivent et... Ils ont vu que on est tombé comme des ronds de flanc, on était contents. Et donc, les gendarmes, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on déplace des tableaux. Qu'est-ce que c'est qui a été pris? Les noms de tout le monde, le nombre de tableaux, le nombre de réglettes, le nombre de chaises, l'état des lieux, tout ça, c'était. Ils ont trouvé ça comique aussi. On est des sauveteurs d'outils pédagogiques. Ils ont eu contact avec la principale, c'est elle qui avait téléphoné. Il y a une espèce de, il y a un micmac, elle n'a pas téléphoné directement, elle avait téléphoné à Albi, à la préfecture. Et c'est la préfecture qui a téléphoné à la gendarmerie. C'est là où ça a pris des ampleurs phénoménales. C'est là où il y avait tout d'un coup, il y avait cambriolage au collège.
Je m'appelle Valérie, j'ai 47 ans bientôt. Je suis enseignante depuis 23 ans et dans le collège de Gaillac depuis 17 ans. C'était ma 17e rentrée. Donc j'enseigne l'histoire et la géographie et l'éducation civique depuis tout ce temps et j'adore ça. Depuis que j'y suis, voilà, tout ce qu'on demande, on nous dit « Attendez, il va y avoir de gros travaux ». Et donc ils arrivent, en gros, depuis l'an dernier. Ces gros travaux, vraiment très très importants, c'est-à-dire on garde la structure du bâtiment, mais on refait tout ce qu'il y a dedans, la configuration des classes, l'isolation, les réseaux d'eau, l'informatique, enfin tout est refait, on reconfigure même les lieux, le self va changer de place. Et c'est un peu dans ce contexte-là que les tables noires ont été réclamées. Au départ, on a réclamé de les garder, d'abord parce qu'ils étaient neufs. C'est pas une demande exclusive, c'est-à-dire que depuis des années, on avait les deux. Donc un très grand tableau noir et un tableau un peu plus petit, c'est-à-dire sans rabat, blanc. Donc les professeurs qui préfèrent les tableaux blancs pouvaient aussi... Il n'était pas question d'imposer. Il y a aussi la question de la liberté pédagogique de chacun. Et voilà, il nous est pas venu à l'idée d'imposer le tableau noir à tout le monde. Il y a aucune nostalgie dans cette idée de garder les tableaux noirs. C'est pas l'idée. J'aime cette idée de l'école des années 50, de vouloir écrire absolument à la craie. Et avec un petit groupe de professeurs de différentes disciplines, maths, SVT, histoire, géographie, on a formulé cette demande très simple de pouvoir garder, en plus du tableau blanc, un tableau à craie. Les salles étaient annoncées plus grandes que celles qu'on avait en général, donc au niveau de la place, ça posait pas de soucis. Donc on garde des choses en bon état et on rachète pas. Comme on dit toujours qu'on doit faire des économies à toutes les échelles, ça nous semblait être important aussi. On a écrit au Conseil Général, on a alerté notre direction, les collègues qui nous représentent au Conseil d'administration, et on n'a pas de réponse. Rien du tout. Il n'y a pas eu d'autorisation formelle, mais il n'y a pas eu d'interdiction. Et on annonce, on dit, mais écoutez, si vraiment on n'a aucune réponse, nous on va mettre ces tableaux à l'abri. On est le 28 juin, donc c'est pas encore les vacances, mais on n'a plus d'élèves depuis la veille au soir. Le collège se prépare à recevoir l'examen du brevet. On était 11 personnes à agir, et on est arrivé. Normalement, on a vu les membres de la direction, on a bu un petit café... Et pendant ce temps-là, les premiers commencent à démonter et les tableaux passent devant la principale. C'est vraiment bon enfant. Ça a été assez rapide. Enfin, en gros, on a dû rester une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, voilà, un personnel de direction arrive, nous crie dessus. Qu'est-ce que vous faites ? Reposez tout. Donc là, on est un peu interloqué parce que on se fait quand même rarement hurler dessus. Et puis, arrivent des gendarmes. On s'est dit, mais c'est pas possible, notre direction a appelé les gendarmes contre nous, alors que tout le monde sait qu'on vole pas, quoi. Le 3 août au matin, donc je suis convoquée en même temps que deux autres collègues, pour intrusion et vol aggravé. C'est le motif qui va être retenu. Et là, c'est vraiment le coup de massue. C'est pas juste une audition comme ça, c'est une vraie audition avec une prise d'empreinte, une prise de photo et dans la foulée une perquisition au domicile. Et puis l'audition se passe, on pose des questions sur mes moyens financiers. Alors là, je commence à halluciner, on me dit que je peux avoir un avocat. Voilà, je me sens délinquante dans la façon dont je suis reçue. Et finalement, la partie la plus violente, c'est à la rentrée. La rentrée se passe en assemblée plénière. Puis, dans cette assemblée plénière, la direction en profite pour dire qu'une procédure disciplinaire est ouverte contre nous. On la prend à ce moment-là. Et tout le monde regarde ses chaussures et il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas une solidarité globale qui se met en place. On risque jusqu'à la radiation ou une mutation d'office. Pour moi, une mutation d'office, si je suis mutée loin de chez moi, c'est je démissionne. Donc on risque, gros. Moi, je me mets presque en tête que je vais être radiée. Puis là, on décide de se battre, quoi. On se dit non, c'est pas possible. Et la question du regret, elle peut se poser à ce moment-là. Est-ce qu'on devait se taire? Est-ce qu'on dit bon, finalement, on peut pas les avoir, on va se taire? Est-ce que c'est ça qu'on a envie de montrer aux enfants, aux élèves? Moi, dans mon enseignement, il y a aussi la citoyenneté. Et moi, je trouve plus important de leur montrer que s'il y a quelque chose d'absurde, il faut le dire. Et il faut combattre l'absurdité à toutes les échelles. Et à l'âge de nos élèves, nous, on est en collège, on est aussi à l'âge où une grosse partie de ce que doit leur apporter le collège, c'est la capacité de vivre ensemble, de décider ensemble. On est dans une démocratie. Les programmes d'éducation civique sont pleins de ces très beaux principes dans l'histoire, dans le présent. On doit enseigner des choses. Et à des moments donnés, elles deviennent la réalité. Et puis de voir que les adultes, ça peut être compliqué aussi pour les adultes. Moi, je ne crois pas à l'exemplarité absolue de l'adulte. Je suis prof, je ne suis pas un modèle pour les élèves. S'il fallait le refaire, est-ce que tu le referais? Eh bien oui. Et que si, même si c'est vu comme une désobéissance, que nous, on n'a pas mis du tout dans cette catégorie, eh bien, j'assume. Un lundi, début septembre, la deuxième semaine, on vient me chercher en cours, donc je quitte mon cours et je vais chercher une lettre qu'on m'a adressée. Donc je demande si j'ai 5 minutes pour la lire, puisque j'imagine que c'est quelque chose d'important, puisqu'on m'a dérangé dans mon travail. Et c'est une lettre du rectorat qui m'explique que la procédure est suspendue. Le rectorat, dans son souci d'apaisement et de rétablir le climat serein de l'établissement, ne va pas plus loin dans la procédure. La révolution ne partira pas de Gaillac, mais ça donne du sens.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Il y a deux clans, un reportage de Valérie Borst réalisé par Jean-Christophe Francis. Merci à Didier, à Valérie, à Elsa, à Liam Kay, à Valérie Van Rechem, à Philippe Villa, à Grégory Gendre, à Mohamed, à ses enfants et merci à Magali. Sachez que depuis l'enregistrement de cette émission, il n'y a pas très longtemps, mais tout de même, les professeurs du collectif Tableau Noir à Gaillac dans le Tarn ne savent pas ce que sont devenus les fameux tableaux à craie. Et concernant le McDo, la cour d'appel devrait rendre sa décision en juin 2018. Sachez également que d'autres villes se sont opposées à un projet similaire, à Rome, à Millau, comme on se souvient, à Florence, et dans le quartier de Montorgueil à Paris. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Céline Autin, c'est notre stagiaire. N'hésitez pas à podcaster nos émissions, à vous abonner donc à notre podcast, si vous voulez pouvoir nous écouter où vous voulez et quand vous voulez.